Le journal vous est présenté par Ezekiel Fernandez. Bonjour Ezekiel.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le nombre de villes et agglomérations où le masque devient obligatoire dans les lieux publics ne cesse d'augmenter en France. C'est le cas à Lille, où le Premier ministre se rend aujourd'hui. Reportage dans la métropole des Hauts-de-France, signé Marie-Jeanne Dolpol.
Le nouveau viaduc de Gênes, inauguré aujourd'hui 2 ans après l'effondrement du pont Morandi qui avait fait 43 morts. Un chantier mené rapidement dans un pays, l'Italie, connu pour la lenteur dans l'exécution des travaux publics.
Drôle de course présidentielle américaine, Donald Trump s'agite en essayant de récupérer une partie de sa popularité perdue, tandis que son adversaire démocrate Joe Biden mène une campagne en mode mineur. Correspondance de Loïc Loury dans ce journal.
Les vignes à l'épreuve du changement climatique, les vendanges ont déjà commencé dans l'Aude, avec un mois d'avance sur le calendrier habituel. Reportage à Fitou au sud des Corbières en fin de journal.
La pandémie de coronavirus continue de s'accélérer dans le monde. 1 million de cas supplémentaires enregistrés en moins de 4 jours. Au total, 18 millions de cas, dont plus de la moitié aux États-Unis, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. La pandémie a fait officiellement près de 690 000 morts. En France, l'obligation de porter le masque dans les lieux publics ouverts s'étend en raison de la recrudescence des cas de Covid-19. Après la Mayenne, plusieurs communes vont dans le même sens, comme Biarritz, Saint-Malo ou Orléans, et la liste continue de s'allonger. C'est le cas également à Lille, où se rend précisément Jean Castex aujourd'hui. La mégapole lilloise compte plus d'un million d'habitants et l'épidémie connaît une progression qualifiée d'inquiétante. Et comme toujours, cette obligation de porter le masque est plus ou moins bien vécue, comme a pu le constater Marie-Jeanne Dolpol dans les rues de Lille.
Exemple, la place de Strasbourg, au carrefour entre la rue Masséna et la rue Nationale. Dans la première, le masque est obligatoire, mais pas dans la deuxième. Pour Niena, ça n'a pas de sens.
C'est assez bizarre. Par exemple, sur cette rue-là, je ne le porte pas. Mais si je dois le porter là-bas, ce serait, enfin, je ne vais pas dire que c'est stupide, mais quitte à porter le masque obligatoirement, autant porter le masque dans toutes les rues. Soit tu le portes tout le temps, soit tu ne le portes pas. C'est tout.
Et lui, dimanche, il ne le portait pas. Enfin, si, mais sur son poignet. Emma, au contraire, n'est pas encore dans le bus, qu'elle a déjà le masque sur le nez.
J'aime pas être dans les rues sans masque parce que j'ai toujours peur que si je croise quelqu'un, je me prenne des projectifs, on ne sait jamais. Du coup, je pense que c'est bien de faire ça en prévention parce que... ça va permettre d'essayer de ralentir un petit peu le virus.
À partir d'aujourd'hui, comme elle, il faudra porter un masque aux arrêts de bus et de tram. Les abords des gares, les parcs et les zones piétonnes sont aussi en zone rouge. Dominique a étudié scrupuleusement la carte de la mairie de Lille.
Je l'ai vu sur Internet, donc j'ai regardé les rues qui étaient possibles. Voire même, j'essaierai de prendre celles qui ne sont pas rouges pour ne pas porter le masque. Faire un détour, carrément. C'est inconfortable, quand même, le masque.
Mais il en a quand même toujours un dans la poche, au cas où, sans masque, vous risquez une amende de 135 euros.
En Australie, un couvre-feu est en vigueur à Melbourne, où les cas de Covid-19 se multiplient, et cela pour les 6 prochaines semaines. Il est interdit de sortir de chez soi à Melbourne, donc de 20h le soir jusqu'à 5h le matin. L'Italie célèbre aujourd'hui la reconstruction en un temps record d'une infrastructure essentielle au bon fonctionnement de l'un de ses principaux ports. Il aura fallu 12 mois à peine pour que Gênes se dote d'un nouveau pont. Il sera ouvert à la circulation cette semaine, quelques jours avant le 2e anniversaire de l'effondrement du viaduc Morandi qui avait coûté la vie à 43 personnes et bloqué complètement l'activité économique de la ville. Pietro Salini est le patron de l'entreprise éponyme qui a été avec Fincantieri à l'origine de la reconstruction du nouveau pont de Gênes.
Una ferita terribile per la città, per il paese, per tutti noi. Com'è possibile che in un paese...
L'effondrement du pont Morandi a été une blessure terrible pour la ville, pour le pays, pour nous tous. Comment est-ce possible que de telles catastrophes arrivent dans notre pays? Comment est-ce possible, avec notre expérience, notre savoir-faire? Nous n'avons simplement pas entretenu ces infrastructures alors que nous sommes les descendants des Romains, ceux qui ont traversé le monde avec leurs infrastructures, ceux qui ont fait comprendre à tous l'importance des infrastructures. Et pourtant, à un moment, on a oublié qu'elles devaient être entretenues, car elles ne sont pas éternelles. Je voudrais que ce nouveau pont soit un message, qu'il soit à l'origine d'un grand plan pour le pays, d'entretien, de reconstruction des infrastructures, pour donner du travail à des millions de personnes qui attendent et qui, en ce moment, sont terrifiées dans leur maison et ne savent pas ce que leur réserve l'avenir.
Pietro Salini au micro d'Olivier Tosseri. L'inauguration du nouveau viaduc de Gênes va se faire aujourd'hui, mais en l'absence des familles de victimes qui estiment ces cérémonies déplacées. Ces familles qui attendent par ailleurs l'issue du procès qui doit avoir lieu en principe l'année prochaine. Au Cameroun, 18 personnes tuées ce week-end lors d'une attaque attribuée aux djihadistes du groupe Boko Haram contre un camp de personnes déplacées dans l'extrême nord. Et puis la situation est toujours inquiétante au Mali, plongée dans une crise politique grave. 5 soldats ont été tués hier lors de 2 attaques simultanées menées par des djihadistes dans le centre du pays.
France Culture 7h05, Ezequiel Fernandez, la campagne présidentielle aux États-Unis ne ressemble décidément à aucune autre à 3 mois tout juste de l'échéance du 3 novembre.
Oui, vous l'avez dit juste avant ce journal, en effet, Chloé, l'épidémie de coronavirus lui donne un caractère un peu, disons, fantomatique. Le président sortant, Donald Trump, est en difficulté dans les sondages, il ne donne plus de grands meetings, il profite de sa fonction en fait pour se faire voir le plus possible, alors que son adversaire démocrate, Joe Biden, poursuit une campagne essentiellement numérique et particulièrement discrète malgré l'échéance toute proche. À New York, les précisions de Louis Loury.
Aujourd'hui, je pense à vous, dit Joe Biden dans ce spot de campagne récent, rien d'original a priori. C'était pourtant la première fois que le candidat diffusait une publicité au Texas, un état réputé presque ingagnable pour les démocrates. C'est dire à quel point ils envisagent désormais de gagner gros. La campagne de Joe Biden, pourtant, ne le laisse pas supposer, pas de contact avec ses futurs électeurs. Pandémie oblige, il s'agit de montrer qu'il n'est pas comme Donald Trump, et des réunions publiques taille réduite, souvent près de chez lui à Wilmington, comme ici dans un gymnase presque vide. Donald Trump est confronté à un vrai test et il a échoué. C'est une règle élémentaire lorsque l'on est président, le devoir de prendre soin de l'ensemble du pays et pas seulement de sa réélection. Joe Biden continue de mener une campagne en contraste avec son adversaire. Après tout, il mène dans les sondages et évite ainsi les bourdes dont il a le secret. Le candidat, toutefois, va devoir sortir du bois avec d'abord dans les prochains jours la révélation du nom de sa coalition. En attendant une échéance le 29 septembre qu'attend sans doute Donald Trump avec impatience, le premier des 3 débats qui opposeront les deux hommes.
I'm Joe Biden and I approve this message.
Et Loïc Loury vient de vous le dire, Joe Biden révélera cette semaine le nom de sa colistière appelée à être vice-présidente en cas de victoire. La sénatrice Kamala Harris fait figure de favorite en ce moment. Les États-Unis confrontés à une crise démocratique, il en sera question avec les deux invités de Chloé Cambrelin à partir de 7h40. La capsule spatiale Crew Dragon avec à son bord 2 astronautes américains de la NASA, de retour de la station spatiale internationale, la mairie sans problème d'ailleurs hier soir dans le golfe du Mexique, malgré des conditions météo assez houleuses, il faut bien le dire. Il s'agit de la première mission habitée de la NASA à partir du sol américain depuis le retrait des navettes spatiales en 2011, une mission financée à titre privé par le milliardaire Elon Musk. S'il en est qui constate chaque jour les effets du changement climatique, ce sont bien les agriculteurs et parmi eux les viticulteurs qui voient chaque année ou presque la date des vendanges avancer dans leur calendrier. À cela s'ajoute la sécheresse. Nous venons de vivre le 3e mois, celui de juillet, le plus sec depuis 1979. Si la vigne souffre moins que d'autres cultures du stress hydrique, il n'en demeure pas moins que cela affecte la production. Au sud du massif des Corbières, résultat les hautes et chères des vendanges qui se font parfois très tôt comme au domaine du Champ des Sœurs. C'est à Fitou, dans l'Aude.
Laurent Ménadier fouille dans ses vignes bio.
Trouver les grappes.
À la recherche de raisins non vendangés.
La parcelle sur le haut a été récoltée.
Ce vigneron se dit témoin du réchauffement climatique.
On l'a récolté donc le 27 juillet. On récoltait historiquement aux alentours du 15-20 août.
Il fait quoi, de plus en plus chaud?
Il n'y a pas assez d'eau. Les sols sont très caillouteux. On peut passer au niveau du sol en plein soleil à plus de 50 degrés.
Les vignes brûlent, les raisins concentrent en sucre, perdent de l'acidité. Et les degrés d'alcool montent. Certains terroirs sont condamnés, selon Laurent Ménadier, qui réfléchit à sa reconversion. Dans un autre champ, il essaye des cultures adaptées à un climat sec.
Là, on a des cactus, des figuiers de Barbarie. On a du thym, du romarin et de l'aloe vera.
Ce n'est qu'un test sur 200 mètres carrés. Pour l'instant, c'est toujours du vin qu'il fait déguster à des amis restaurateurs.
Avec quel plat tu l'associerais?
Avec une petite tête de porc confit servie avec un joli dos de cabillaud.
Même s'il réfléchit déjà à l'avenir avec eux.
Si demain, je te propose des aloe vera et des figuiers de Barbarie, et qu'on fasse un repas. Et derrière, il y aura les vins. Le repenser, le reconcevoir, voir comment on fait évoluer tout ça, c'est normal.
Il y aura toujours du vin.
Ma famille est vigneronne à Fitou depuis 13 générations. Il y aura toujours du vin.
Mais pas le même vin. En 1984, le taux d'alcool des vins du Languedoc était en moyenne de 11 degrés. Il est aujourd'hui de 14.
Oui, c'est tout de même à éviter le matin, hein, pour le petit déjeuner. Reportage donc dans le sud du massif des Corbières, signé Léo Téchère. Le temps nuageux sur la plus grande partie du pays, pluvieux dans le nord, dans le Jura et les Alpes, le pourtour méditerranéen et la Corse s'échapperont à la grisaille. Température maximale de saison, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas caniculaires aujourd'hui, entre 20 et 24 degrés sur la moitié nord, les Alpes et le massif central, 23-26 sur le sud-ouest, et de 25 jusqu'à des pics à 32 degrés sur les régions méditerranéennes et aussi la vallée du Rhône. Excellente journée à tous.